بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي زدنا علما يا كريم ربي زدنا علما يا كريم ربي زدنا علما يا كريم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Toutes les louanges, les remerciements reviennent à Allah Rabbul Izza qui nous a permis de compléter notre journée de jeûne hier. Et alhamdulillah, aujourd'hui, mercredi 13 mars, nous jeûnons le deuxième jour du mois de Ramadan à La Réunion et le troisième pour la métropole et différents pays. Mes chers frères et sœurs, nous avons tous déjà entendu beaucoup de rappels concernant le fait que le mois de Ramadan est le mois par excellence où on doit se rapprocher d'Allah. Et quand on nous parle de nous rapprocher d'Allah, instinctivement, on se dit que se rapprocher d'Allah, c'est faire beaucoup de bonnes œuvres, beaucoup de bonnes actions, ce qui est tout à fait vrai. Et comme on avait un peu rappelé hier, il y a ce vent de hidayah, d'acceptation, de guider, qui descend des cieux, qui, par la grâce d'Allah, guide les croyants et les motive à accomplir de bonnes actions. Et donc, nous sommes réguliers, présents, nous répondons présents, nous sommes assidus, à la prière, à la masjid, à l'étude du Coran, au dhikrullah, au du'a, au qiyam al-layl, au tahajjud, au salat al-tarawih, au dhikrullah, et ainsi de suite. Ce sont des actions magnifiques. Certainement, de ce mois, nous cumulons beaucoup plus d'actions que nous accomplissons en dehors de ce mois béni. On va dire que si on a intégré le fait que Ramadan est synonyme d'augmentation de notre quota de bonnes actions, on est déjà dans ce groupe de personnes qui, mashallah, profitent de ce mois béni et qui, on va dire d'une certaine façon, donne l'importance au mois de Ramadan parce qu'on a un véritable changement dans notre rythme de vie, changement qui ne se limite pas, bien sûr, à l'alimentation. C'est pas uniquement qu'on arrête de manger, ça c'est le premier degré du jeûneur, celui qui intègre uniquement que le sawm, c'est ne pas manger du matin au soir. Le deuxième degré, c'est celui qui respecte les masa'il, les règles de jurisprudence du jeûne, mais qui en même temps vont accomplir beaucoup de bonnes œuvres. Là, on est dans la deuxième catégorie. Il ne faut pas oublier que le terme ta'a, obéissance, ta'atullah, obéir à Allah, c'est faire de bonnes œuvres, accomplir ce qu'Allah attend de nous, mais c'est également s'éloigner de ce qu'Allah a rendu interdit. Et la définition plus globale de la taqwa, c'est justement de se mettre dans une situation, où Allah sera toujours satisfait de nous, et de ne jamais se mettre dans une situation ou en position où on est dans le péché, où Allah serait mécontent de nous. Et justement, nous allons développer aujourd'hui une deuxième thématique, As-siyam wa amma harram Allah. Jeûner, c'est également rester éloigné, faire le maximum d'efforts, en tout cas, tout ce qu'on peut pour dire non au péché, aux tentations, et rester éloigné du haram. Il y a un hadith rapporté par Imam Muslim, hadith connu sous le nom de hadith al-muflis. Le prophète a posé la question au sahaba, atadrouna man al-muflis? Est-ce que vous savez qui est le muflis? En arabe, le muflis, c'est celui qui n'a plus d'argent. Les sahaba du prophète d'Allah, le muflis, c'est celui qui, la dinara wa la dirham alahu, celui qui n'a pas d'or, n'a pas d'argent, pas de dirham, et ainsi de suite. Le prophète alayhi salat wa salam, puis là, on voit, c'est une façon que le prophète avait de motiver les sahaba en leur posant des questions pour que chacun se sente concerné et participe. Il y a ce côté interactif qui découle de toute la pédagogie de notre prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, qui ne faisait pas uniquement des discours. Donc il sollicitait l'avis des sahaba. On revient au sujet. Et donc le sahaba donnait cette réponse. Et le prophète alayhi salatu wa salam donne maintenant la définition et l'enseignement qu'il voulait dispenser aux sahaba, que le muflis, on va le dire directement en français parce que le hadith était un peu long, le muflis, mes chers compagnons, c'est un croyant. Alors déjà, on parle de ahlut tawhid, des gens qui ont iman, et des gens qui ont fait de bonnes œuvres, et beaucoup de bonnes œuvres. Innal muflis, le muflis dans ma communauté, c'est celui qui, le jour de Qiyama, se présente devant le tribunal d'Allah, bi salatin wa siyamin wa zakah. Celui qui se présente devant le tribunal d'Allah avec quantité de bonnes œuvres. Entre autres, la personne a beaucoup prié. Ce sont les prières obligatoires, les prières, les nawafil, qiyam al-layl, tahajjud, salat al-tarawih. La personne a beaucoup jeûné. Le jeûne du mois de Ramadan, les jeûnes du lundi, du jeudi, 13, 14, 15, c'est-à-dire quelqu'un de vertueux, mashallah, qui s'est forcé de rechercher l'agrément d'Allah par le biais de bonnes actions. Ou Azaka, qui donnait l'aumône, qui donnait le chemin d'Allah. Mais cette personne, le jour des comptes, se présente devant les tribunaux d'Allah avec également un livret de péchés rempli. C'est-à-dire, autant il avait beaucoup de bonnes œuvres dans son livret de bonnes actions, malheureusement, on dit malheureusement, il avait beaucoup de péchés dans ce livret de sayyi'at. Wa qad shatama hadha, wa qadhafa hadha, wa akala mal hadha. Et l'akhir al-hadith, c'est quelqu'un qui, de ce dunya, insultait les autres, était injuste, accuser les autres des choses qu'ils n'avaient pas fait. C'est une personne qui était malhonnête dans ses transactions, avait pris les biens d'une autre personne. Ça peut être quelqu'un dans votre famille ou nous-mêmes, qu'Allah nous protège. On a été injuste de le partage, de l'héritage. On n'a pas respecté le testament et ainsi de suite. Ça peut être également une personne qui a des parts dans une société, une SCI ou autre chose, et qui n'est pas équitable de le partage des, on va dire des dividendes, des bénéfices, et ainsi de suite. Bref, c'est quelqu'un qui trompe son prochain dans les mu'amala, dans les transactions, dans le domaine des transactions, mais c'est également quelqu'un qui, à travers ses paroles, à travers son comportement, porte atteinte à la dignité d'un musulman. Bon, ça me dit que cette personne se présentera devant le tribunal d'Allah, mais il sera arrêté par les opprimés. Et les opprimés, ce sont justement les personnes à qui il avait fait du mal, de ce dunya par ces différents péchés qu'on a cités. Et même si je me considère comme étant quelqu'un de plus ou moins clean, je n'ai pas volé personne, je n'ai jamais fait transaction avec quiconque, du coup je ne me sens pas concerné. Attention, les premiers péchés qu'on a cités, c'est shatama hadha, le fait d'insulter, le fait de faire la médisance, la riba, le bohtan, la calomnie, le namima. Ce sont parfois des péchés qu'on ne reconnaît même plus comme péché. Ça fait partie des conversations qu'on a à table. C'est souvent on peut appeler ça les biryani du dimanche midi, avec leur avantage et leur inconvénient. Avantage, c'est qu'on réunit la famille autour d'un bon repas. C'est le silatul rahim, c'est important. Mais parfois, enfin, il faut pas voir les inconvénients, mais il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas d'inconvénients qui se greffent à ce moment, d'accord, à ce moment convivial. C'est dès les conversations, on va parler de fulane, telle personne, ah oui, il a divorcé, telle personne, il a quitté ses enfants, il est parti avec une autre, et ainsi de suite. Ce sont c'est-à-dire des choses qui ne nous concernent pas directement, des gens qui ne nous ont rien fait, mais on a juste besoin, Allah musta'an, de faire de la conversation, ou pire encore, être celui qui aura, na'oud billah, les dernières infos, on appelle ça les infos croustillantes, et ça c'est un péché extrêmement grave, il y a des mises en garde sévères contre celui qui révèle les défauts ou les péchés d'un frère musulman pour attirer l'attention. Alors, je ne vais pas trop développer cette thématique, on veut rester de façon, une approche plus globale. Attention, nous pouvons tous être concernés par ces péchés qui risquent de nous porter gravement atteinte le jour de Qiyam. Il se peut que, je donne un exemple parmi tant d'autres, mais c'est très terre à terre, mais ça nous permet un peu de comprendre. Imaginez que, mais franchement c'est en décalage avec le côté spirituel, imaginez que vous avez des feuilles de soins, vous avez payé des soins à un médecin, vous avez avancé les frais, vous comprenez, et vous envoyez les feuilles de soins à votre caisse, à la sécurité sociale ou peu importe votre caisse, vous envoyez une dizaine de feuilles de soins pour un montant de, je dis un chiffre de 400 ou 500 euros. Vous attendez à ce que votre caisse vous rembourse cette somme. Et peut-être même que vous avez déjà prévu de vous faire plaisir parce que je vais recevoir un remboursement à telle hauteur. Mais votre caisse vous répond que nous avons bien reçu vos demandes de remboursement, mais sachez que vous aviez des règlements en attente. Vous savez que sur chaque consultation, chaque médicament, il y a un pourcentage, bref, 1 euro, 2 euros. Et si on cumule tout ce que vous nous devez, ça ne couvre même pas ce que vous réclamez. Donc en finalité, vous pensiez avoir des récompenses, enfin avoir un retour d'argent, et en finalité vous retrouvez les mains vides, les poches vides. C'est un exemple décalé, mais ça nous donne une idée. Cette personne qui a fait le pèlerinage, qui a jeûné, qui a fait mashallah, mashallah, et qui pense que le jour de Qiyama, il sera parmi les élus, parmi ceux qui auront un haut grade. Mais attention, dans ses activités de ce dunya, en tant que, ça peut être, et là je parle des postes les plus prestigieux, jusqu'à le musulman, le croyant lambda. le dirigeant. J'ai une responsabilité, je suis responsable d'une association, ou mieux encore, j'ai un poste officiel dans la fonction publique ou autre, ou je suis directeur d'une entreprise, je suis PDG, ainsi de suite, ou tout simplement j'ai un poste à responsabilité. De le privé ou de le public, j'ai un poste à responsabilité et je n'ai pas été juste avec mes employés, sans distinction, hein, qu'ils soient croyants ou non croyants, l'injustice, na'oud billah, ça concerne chaque créature d'Allah. Nous sommes exposés à ce genre de conséquences au jour de Qiyama. Si on a été injuste avec notre prochain ou par des paroles, même si on n'a pas un poste à responsabilité, là on revient à une situation un peu plus commune, la médisance, la calomnie, je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure, mais tout ça a des conséquences au jour de Qiyama. La personne risque de voir ses bonnes œuvres distribuées aux opprimés. Parce que je reprends le fil du hadith, les opprimés viendront réclamer le droit au jour de Qiyama parce que notre Seigneur est juste. Et Allah n'aime pas l'injustice. Allah s'est lui-même interdit l'injustice et il a dit « Fala tadhal lamu » et vous-même, mes créatures, ne soyez pas injustes entre vous. Ça peut être également un homme, un père de famille qui a été injuste avec ses enfants ou un homme avec son épouse, ainsi de suite, ou vice-versa, l'épouse par rapport à son mari. Vous savez que le jour de Qiyama, on ne veut pas entrer dans trop de détails parce que je veux vraiment axer l'intervention sur cette thématique. Vous savez que le jour de Qiyama, personne n'aura de la compassion, ni de la pitié, ni la moindre présence d'humanisme dans son cœur pour son prochain. S'il y a possibilité d'enfoncer, le terme est lourd, d'enfoncer son prochain, le jour de Qiyama, devant le tribunal d'Allah pour dire « Oh Allah, tel jour il a été injuste, il m'a dit telle parole » et ainsi de suite, personne n'hésitera à le faire. « Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim » Justement, « qalbun salim » c'est un des thèmes qu'on va peut-être aborder. Il n'y aura plus de lien de parenté. Dans ce dunya, le lien le plus fort qui peut exister, c'est le lien d'une mère envers son fils. Que l'enfant soit encore petit, qu'il soit adolescent ou, mashallah, un père de famille marié, tant que la maman est vivante, c'est le lien humain le plus fort. C'est plus fort encore que le lien entre l'homme et sa femme. Même ce lien, le jour de Qiyama, sera totalement absent. Il n'y aura plus de lien de sang ni de lien affectif. Une mère n'hésitera pas à réclamer son droit auprès du tribunal d'Allah par rapport à son fils qui n'a pas été présent dans les moments difficiles et vice-versa un enfant qui estime que ses parents ne lui ont pas donné les bons conseils et le cadre religieux correct. Bref, on comprend que le jour de Qiyama, c'est un jour vraiment où chacun cherchera à se protéger, à se sauver. Et là aussi, je donne un exemple, c'est une métaphore décalée bien sûr, mais les exemples servent à ça. Une personne qui est en train de se noyer. Une personne qui est en train de se noyer, si vous pensez pouvoir le sauver, il faut vraiment que vous soyez un bon nageur. Autrement, c'est connu, c'est prouvé, ce sont des réactions, on parle même plus de psychologie, c'est de question de survie humaine. La personne qui se noie et qui voit quelqu'un s'approcher pour l'aider n'hésitera pas une seconde à s'agripper à vous, quitte à prendre appui sur votre tête et à vous enfoncer dans l'eau pour que lui puisse extraire sa tête de l'eau. C'est une réaction humaine, ça. C'est une réaction humaine. Je donne une idée, quand il s'agit de se protéger, protéger sa vie, l'instinct de survie, ça dépasse les limites affectueuses ou les limites de l'humanisme ou peu importe. Le jour de Qiyama, la situation sera pire parce qu'il s'agit de Jannah ou Nar, qu'Allah nous protège. Ainsi donc, le jour de Qiyama, les opprimés viendront réclamer le droit à Allah et Allah ne laissera pas un opprimé entrer dans le Jahannam, une personne je veux dire, Allah ne laissera pas une personne entrer dans le Jahannam alors qu'il a été opprimé de ce dunya et qu'il n'a pas obtenu réparation le jour des comptes. Tout comme notre Seigneur ne laissera jamais un croyant entrer dans le Jannah alors qu'il a fait du mal à son prochain sans qu'il y ait réparation le jour de Qiyama. Et comment est-ce que les injustices seront compensées le jour de Qiyama? C'est la suite du hadith. فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ Allah رب العزة va prendre les bonnes actions de ce croyant et les distribuera aux opprimés, aux gens à qui il a fait du tort. Maintenant imaginez, pendant une existence, pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, on a fait la médisance, on a, on a dit des paroles blessantes. Il y a beaucoup de gens, Allah musta'an, qui se sont spécialisés sur les calomnies concernant les familles et les couples, les personnes mariées. Allah musta'an, et qui font un péché qui est encore plus grave, an-namima, qui sème la zizanie, qui n'hésite pas à dire des choses incohérentes et injustes, infondées à l'épouse concernant son mari, vice-versa. Mais imaginez qu'une personne ait commis ce genre de péché pendant des années et des années. Ce sont également des années de bonnes actions qui seront redistribuées aux opprimés. Et le hadith, la suite du hadith stipule que si l'ensemble des bonnes actions, ça c'est terrible, ça c'est dramatique, si l'intégralité des bonnes actions de la personne, de l'oppresseur, qui était pourtant pieux de ce dunya, mais pas une véritable piété, parce que cette piété ne l'a pas empêché de faire du mal aux gens, donc on n'est pas dans la définition de la piété, si l'intégralité de ces bonnes œuvres externes n'était pas suffisante pour couvrir les manquements et les injustices, Allah Rabbul Izzah ordonnera que les péchés des opprimés soient greffés à son livret de bonnes actions. Ça, c'est la pire des situations. C'est-à-dire, une vie que tu passes dans l'obéissance, le jour de Qiyama, tu ne trouves pas la moindre récompense, et les péchés contre lesquels tu t'étais prémuni, tu n'as jamais fait le zina, jamais bu d'alcool, jamais fait tel péché, que toi tu estimais comme grave, mais tu te laissais aller dans afatul lisan, les péchés avec la langue, avec le cœur, et on verra le cœur dans un instant, si on a le temps, et les injustices, et ainsi de suite, ben ces péchés-là, Allah musta'an, seront immédiatement greffés de ton livret de compte, et la personne ira en enfer, nasallahu alayhi wa sallam, atwala afia, à cause de ses péchés. Donc, l'auteur du livre, le support qu'on utilise, il a commencé donc cette thématique de As-Siyam amma harram Allah, et rester éloigné du haram, en mentionnant justement le hadith de Mouflis pour nous rappeler aux croyants, aux jeûneurs, fais attention à ces péchés qui peuvent te coûter très cher le jour du Qiyama, qu'Allah Rabbul Izzah nous protège. Ainsi donc, jeûner, c'est rester éloigné des péchés de façon globale. Et la thématique des péchés, ça on développera peut-être plus tard, mais là on a voulu insister sur le mal qu'on fait aux gens, parce que des fois ça devient une habitude, ça devient, une seconde nature, qu'on a pris l'habitude de parler à tort et à travers, à dire des paroles blessantes et déplacées. À un moment donné, on ne s'en rend même plus compte, ça devient naturel et on le fait au quotidien. On va continuer, il reste 3 minutes, on avait prévu 20 minutes pour pas que ce soit trop long pour les personnes qui écoutent. Il faut que les programmes de Ramadan ne soient pas longs, ça prend pas trop de notre temps, mais ce soit des rappels qui sont profitables. On va peut-être juste annoncer la thématique qu'on abordera demain. Oui, on va annoncer la thématique. Demain, ce qu'on va voir, c'est maintenant les péchés qu'on accomplit avec les yeux, avec la langue, avec les oreilles, les mains, les membres. Et il est essentiel de s'assurer un contrôle de al-jawarih, de son corps, dans l'intégralité. On verra que avoir ces 5 sens et être en pleine possession de ses capacités physiques et mentales, c'est un grand bienfait, un des grands bienfaits qu'Allah accorde à ses serviteurs. Et pour chaque bienfait, il y aura des questions, il y aura des comptes à rendre, et on verra demain, inshallah, le fait que les yeux, les oreilles vont témoigner au jour de Qiyama. Donc, ce qu'on retient, ce qu'on peut conclure cette intervention, en disant qu'on doit faire attention dans nos relations avec notre prochain. Dans notre relation avec notre prochain, on contrôle nos paroles, on contrôle nos pensées aussi, c'est important de ne pas développer de jalousie, de haine, et ainsi de suite. Mais ça, c'est un autre point, c'est une troisième thématique que l'auteur aborde et qu'on abordera, inch'Allah, par la suite. Donc, on comprend que jeûner, c'est jeûner avec le ventre, bien sûr, mais c'est jeûner également avec chaque membre de notre corps qui doit se soumettre aux ordres et aux interdits de notre Seigneur, Rabbul Izzah. Qu'Allah, notre Seigneur, ait pitié de nous, guide nos cœurs, que cette guidé de ce vent de Hidayah nous couvre entièrement et nous permet d'accomplir quantité de bonnes œuvres, mais également de protéger nos bonnes actions. Et ça, c'est un point extrêmement important. Les ulama, rahimahumullah, insistent sur les 3 étapes de la bonne action. En amont, il faut al-ilmu bil-amal. Comme c'est intitulé dans beaucoup de kitabs, bab al-ilmu qabla al-amali. Avoir connaissance de ce que nous avons fait avant d'accomplir la bonne action. Connaître tout ce qui est en rapport avec la jurisprudence, ce qu'on va faire, et connaître les vertus, ça nous permet de mieux nous appliquer et d'avoir plus de présence de cœur, de la bonne action. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est al-ikhlas, la sincérité. Quand on accomplit une bonne action, on le fait vraiment pour Allah. Ça, on avait vu dans le tafsir de le dernier tafsir qu'on avait fait avant les vacances, avant le mois de Ramadan, au latanier, les gens qui donnaient à manger aux pauvres et ainsi de suite, aux orphelins, innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jaza'an wa la shukura. Ils donnent pour Allah, pour rechercher l'agrément d'Allah, sans rechercher les éloges, ni même, et ça c'est des termes que moi j'utilise, hein, les likes sur Instagram, sur les réseaux sociaux, na'oudou billah, c'est le fitna moderne, ça, qui nous amène vers l'ostentation, sans rechercher la satisfaction, la reconnaissance des gens, aucunement. C'est la bonne action, l'aumône qui est faite secrètement, sans que personne ne le sache. Et donc ça c'est la deuxième étape, la ikhlas, la sincérité dans la bonne action. La troisième étape, enfin il y en a quatre, la troisième étape c'est faire l'action conformément à la sunna, s'assurer que l'action découle du Coran et de la sunna et le pratiquer comme le prophète alayhi salatu wassalam le faisait. Et la dernière étape c'est hifzul amal, protéger la bonne action, ne pas faire du mal justement aux gens parce que faire du tort ça annule les bonnes actions le jour de Qiyama, comme on a développé, mais également des péchés du quotidien peuvent obscurcir et diminuer l'apport en hasanat, en bonnes actions. Donc, comme on a accompli une bonne action, on protège et on remercie Allah, Rabbul Izzah, on lui demande de nous aider à protéger ces bonnes actions en restant dans les bonnes œuvres. Naam. Qu'Allah, Rabbul Izzah, nous donne la possibilité de comprendre ces quelques paroles. Très honnêtement, aujourd'hui, je n'avais pas l'intention de développer la thématique du jeûne, parce que, bi'idnillah, ce matin, lors de la salat de Fajr, on a notre imam, Qari Waïs, Allah yahfadhu, nous a fait une magnifique lecture de la surat Ar-Ra'd dans la salat de Fajr. J'avais vraiment, c'était la passion du cœur qui me poussait à développer le tafsir de ces passages, de ces versets. Mais si on commence à commenter les versets, ça risque d'être très long, ça prendrait beaucoup de séances, et à mon humble avis, dans les premiers jours de Ramadan, on ne fait pas de tafsir. À mon humble avis, dans au moins les 4-5 premiers jours de Ramadan, on ne commence pas le tafsir, mais on va aller vraiment vers les rappels concernant l'importance du mois et ce qu'Allah Rabbul Izzah attend de nous afin que nous donnions le droit à ce mois béni. Qu'Allah Rabbul Izzah accepte cette petite assemblée, et nous avons bien sûr une pensée pour le frère qui nous a quittés. On n'a pas l'habitude de prendre le nom des personnes parce que autrement, on devrait prendre le nom de toutes les personnes qui quittent ce dunya. Mais le frère Rachid, Omar Jir, qu'Allah l'accueille dans son Jannah, il est décédé en état de jeûne et il avait des enfants. Qu'Allah Rabbul Izzah apaise le cœur de son épouse, de ses enfants. Qu'Allah fasse descendre la sakina, la tama'nina de leur cœur et qu'Allah leur accorde protection. Et que le jour des comptes, c'est un des versets que notre Qari a lu ce matin, et ce verset, il est magnifique, c'est le verset de l'espoir, Jannat ma'adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alayhim min kulli bab salamun 'alaykum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad dar. C'est lorsque les gens se retrouvent dans le Jannah avec leurs proches, l'homme retrouve son épouse, l'homme retrouve ses parents, ses grands-parents, ses arrière-grands-parents, l'homme retrouve ses enfants, ses petits-enfants, c'est-à-dire les familles se réunissent et se retrouvent dans le Jannah, et il n'y a pas plus grande consécration, plus grand bonheur que de se retrouver dans le Jannah, qu'Allah nous l'accorde, mais il y a sharf wa man salaha, à condition que ces gens avaient les qualités, c'est-à-dire qu'il faut que ces personnes soient dans le droit chemin et qu'ils aient quitté le dunya de ce droit chemin, et qu'Allah donc accorde cet honneur et ce ni'ma à cette famille qui se retrouve tous dans le Jannah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.